Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Portrait d'Isère cap sur l'île de Sørøya aujourd'hui, située à l'extrême nord de la Norvège, en bordure de l'océan Arctique. Cette île sauvage, sans infrastructure touristique, a attiré le photographe isérois Nicolas Néraud. Après un premier voyage en 2015, il y est retourné à deux reprises, en été et en hiver, pour partager la vie des pêcheurs. Une aventure qu'il montre et qu'il raconte actuellement à Grenoble, dans le cadre du festival de la photo de voyage racontée, initiée par l'association Grenoble Bouge.
Les portraits de l'Isère, Michel Caron.
Nicolas Néraud, bonjour, vous me disiez quoi là ?
Vous pouvez mettre le casque.
Vous voulez mettre le casque.
Ouais,
voilà, il y a des gens comme ça, ils arrivent, ils ont des exigences. Allez, mettez le casque. Si ça vous fait plaisir, Nicolas, ça va mieux ? Ah oui, il est plus heureux. Ah non, bah vous savez, il faut monter le volume maintenant. Voilà, la petite boîte. Voilà, c'est bien. On est installé. Vous êtes sur France Bleu Isère, Portrait d'Isère. Notre invité Nicolas Néraud. Il est donc casqué. Je vous disais bonjour.
Bonjour.
Alors Nicolas, vous n'avez que 25 ans et déjà une petite carrière de photographe, il faut le dire. Hein. Vous êtes passionné par le Grand Nord. Vous avez déjà réalisé des reportages au Québec, en Laponie suédoise, en Suède et en Islande. Et aujourd'hui, c'est cette île de Sørøya. Pourquoi ce choix ?
Alors, moi, comme vous l'avez dit, j'ai fait beaucoup de projets qui étaient dédiés au Grand Nord et c'est des univers qui m'attirent énormément. Et j'avais envie de me focaliser un petit peu sur l'humain puisque mes autres reportages étaient beaucoup axés sur la nature et je cherchais un petit peu les lieux où il y ait le moins de personnes possible pour me perdre dans la nature. Et ce projet-là, c'est justement l'occasion d'aller me tourner vers l'humain et de m'intéresser un petit peu à la vie des gens dans ce Grand Nord, en Norvège. Et donc je suis allé rencontrer sur cette île de Sørøya, juste en dessous du Cap Nord, les pêcheurs de morue. Et essayer de témoigner par l'image et également par des interviews de leur mode de vie et puis de leur travail.
Oui, donc là vous êtes beaucoup plus axé sur l'humain, en sachant quand même que vous étiez dans une région, on le répète, qui n'est absolument pas touristique, 800 km² de superficie, 900 habitants, ça va, la densité de la population est plutôt faible.
Oui, ça reste de l'humain avec très peu de personnes, et justement c'est l'occasion de se concentrer et de s'intégrer encore plus facilement dans des petits villages et de connaître au final quasiment toutes les personnes du village. Donc c'est aussi le moyen d'avoir une relation encore plus...
Plus intime et plus profonde, hein, c'est ce que vous me disiez, même si l'approche était difficile, on va y revenir hein, quand même. Hein, vous avez dû attendre 15 jours avant de prendre votre première photo. Vous allez nous raconter aussi votre expérience de la mer où vous n'aviez pas vraiment le pied marin. Cette île, comme on le disait, une île assez sauvage, qui ne comporte que trois villages.
Voilà, trois petits villages. En fait, c'est une très grande île. C'est la deuxième plus grande île de la côte norvégienne. Mais il y a uniquement des habitations sur la petite partie sud, avec une seule route qui fait environ 40 kilomètres, donc un premier port à l'arrivée. Et moi, je me suis intéressé au dernier village de cette route, la route numéro 1. On ne sait pas pourquoi ils l'ont appelé numéro 1, puisqu'il n'y en a qu'une sur l'île.
Mais, ils espèrent peut-être une deuxième route.
Exactement,
un jour.
Peut-être dans un futur proche. Et donc, un petit village qui s'appelle Sørvær, qui était au bout de cette route, avec ici 200 habitants. Et 200 habitants, ça fait finalement très peu, et très peu de petites maisons perchées sur leur presqu'île entre la mer et la montagne.
Alors, qu'est-ce qui vous a impressionné quand vous avez découvert cette île, Nicolas Néraud ? Premières impressions.
Alors moi je suis grenoblois, donc j'ai l'habitude des montagnes, mais ce qui est vraiment frappant en Norvège, c'est vraiment le mélange entre la montagne et la mer. Ce petit village-là, il est vraiment coincé entre les deux éléments, avec les falaises qui tombent à pic dans la mer, et puis le petit village perdu au milieu, et également le climat, puisque moi la première fois que j'y suis allé, c'était en plein hiver. Et c'est quelque chose qui marque, parce que même si on a l'habitude ici à Grenoble de...
Enfin, à Grenoble peut-être pas, mais sur les hauteurs.
Voilà, sur les hauteurs, d'avoir des climats un petit peu rudes. Quand on arrive là-bas, on se dit qu'on connaît rien en fait au climat rude et on réapprend un petit peu à vivre dans le froid.
Oui, parce que alors vous me disiez que la température n'était pas excessivement négative, mais c'est le vent hein, qui est terrible.
Voilà, ouais, les températures descendent rarement en dessous des moins 15, moins 20 degrés. Par contre, le vent souffle extrêmement fort. fait des congères. Et moi, comme je me déplaçais uniquement sur cette petite île en stop et qu'il y a très peu de voitures, et ben, je peux vous dire que quand on attend 4 heures une voiture, parce qu'il y en a une qui passe ou deux qui passent par jour, on ressent assez rapidement le vent et le froid, même avec une chapka rembourrée.
Alors, vos photos montrent, on va bien sûr y revenir, hein, et notamment celles qui sont exposées à la caserne de Bonne actuellement. Moi, ce qui m'a frappé, c'est les photos, ces maisons qui sont très très colorées et qui n'ont pas de volets.
Voilà, oui, pas de volets, puisque au final, en hiver, on a des nuits qui durent jusqu'à 10h30 du matin, 11h, et qui revient à partir de 2h ou 3h de l'après-midi. Donc en hiver, on n'a pas besoin de voler, et en été, les gens sont tellement heureux de voir revenir la lumière qu'ils n'ont pas envie de s'en couper. Donc des maisons sans voler, et puis également des lumières qui sont allumées toute la nuit pour justement garder une ambiance, parce que en plein hiver, c'est quand même assez rude, et c'est pas mal de garder une petite lumière allumée à sa fenêtre.
Puis il y a des jolies lumières naturelles dont vous allez nous parler, les aurores boréales. Nicolas Nero, vous restez avec nous, on va parler de cette île de Sorøya, à l'extrême nord de la Norvège. On vous retrouve juste après Chic sur France Bleu Isère. Good Times, chic sur France Bleu Isère. Très bon début d'après-midi.
Jusqu'à 14h, les portraits de l'Isère.
Et nous partons à l'extrême nord de la Norvège, sur une île, Sørøya, où vous êtes allé, Nicolas Nérot, à plusieurs reprises, à trois reprises, vous y avez passé un mois, donc en hiver et en été. Première expédition, si je puis dire, c'était en mars 2015, en plein hiver. Vous débarquez donc dans un petit village, hein, cette île ne comporte que trois villages, 900 habitants pour une superficie de 800 km², ils ont de la place, et vous vous retrouvez dans un petit village de 200 habitants et là vous passez un mois au milieu des habitants, essentiellement, presque exclusivement des pêcheurs, Nicolas.
Oui, alors c'est cette petite île et toute la partie nord en fait de la Norvège est essentiellement tournée vers la pêche. Il y a très peu de touristes, voire aucun touriste en fait sur l'île de Sørøya, puisqu'il n'y a aucune infrastructure qui sont dédiées aux touristes. Et donc tout est tourné vers la mer et les habitants sont soit pêcheurs, soit travaillent dans les usines de poissons. Et un exemple flagrant de l'importance de la pêche sur ces régions-là, c'est un petit village qui est au milieu de cette île-là, que j'ai visité quand j'y étais en mars l'année dernière. Et qui est maintenant aujourd'hui abandonné en fait tout l'hiver avec simplement une ou deux maisons qui sont encore habitées, puisque il y a quelques années le port a été emporté par une tempête et donc toute activité de pêche a cessé et le port n'a pas été reconstruit. Et sans activité de pêche, ces villages n'ont plus aucune raison de vivre et donc tous les habitants disparaissent. Donc c'était assez flagrant et ça montre vraiment l'importance de la pêche puisque voilà, là-bas on se tourne vers la mer avant de se tourner vers le reste.
Alors vous étiez parti pour faire un reportage photo, hein. On rappelle que vous êtes photographe et que vous exposez actuellement à la caserne de Bonne à Grenoble et votre idée c'était de photographier l'humain, de l'activité humaine, d'interviewer aussi les personnes et vous êtes transformé en pêcheur. Alors votre première sortie en bateau de pêche c'était pas mal, hein, paraît-il, Nicolas.
Alors déjà la première arrivée sur l'île, J'ai attendu deux semaines avant de pouvoir aller en mer en fait, puisque les relations avec les pêcheurs, c'est vraiment, ça prend du temps. C'est des gens qui sont assez rudes au premier abord. Il faut vraiment prendre le temps qu'ils aient confiance en vous et leur expliquer vraiment le projet et puis ce qu'on souhaite faire avec eux et les mettre en avant.
Ils étaient d'ailleurs étonnés que vous puissiez vous intéresser à eux. C'est ce que vous me disiez. Voilà, ils comprenaient pas qu'on puisse s'intéresser à eux.
Ils se demandaient qu'est-ce que venait faire ici un petit Français en Norvège pour faire
petit
des photos.
Petit Français, pas si petit que ça quand même, Nicolas.
Un jeune Français. Pourquoi il venait faire des photos de pêcheurs? Ça sent que même en Norvège, ils sont pas forcément très bien considérés puisque la pêche c'est un métier manuel et que la Norvège est quand même beaucoup tournée aussi vers le tertiaire et puis les métiers liés, par exemple au pétrole, donc les métiers qui brassent beaucoup d'argent. Et donc ils se demandaient ce que je venais faire ici et ça les a en même temps beaucoup touchés que je m'intéresse à leur mode de vie. Et donc, au bout de deux semaines, j'ai enfin réussi à partir en mer. Donc, rendez-vous en hiver, c'est 6h du matin, il fait encore nuit noire. En été, les départs, c'est plus vers minuit ou 2h du matin, puisqu'il fait encore jour. Donc, rendez-vous à 6h au port, je rentre dans le bateau, on part en mer. Les 10 premières minutes, tout se passe bien, on discute, on boit un café, la mer est encore calme, puisqu'on part d'un fjord. En fait, tous les villages sont au fond de fjord, donc protégés de la grosse mer. Et on discute un peu, on rigole du mal de mer. Il me dit ah, tu verras. Je dis oh bah ça se passe très bien pour l'instant. Peut-être que j'ai pas le mal de mer. Moi je connais rien à la mer et j'étais jamais allé sur un bateau avant. Et au bout de 20 minutes, je commence à sentir que ça commence à pas aller très bien. Ils rigolent encore. Ils me disent oui, ça fait toujours ça. Bon, je les laisse. Et puis 25 minutes après, quand ils commencent à être en mer. Et ben moi je suis couché, j'arrive plus à bouger et je décide de sortir de la cabine pour prendre un peu l'air et là il faut essayer de se rendre compte de l'ambiance sur un petit bateau de pêche. Donc c'est des tout petits bateaux, ils sont que deux par bateau. L'ambiance sur un bateau de pêche, c'est pas vraiment l'ambiance qui calme un mal de mer. Entre le mouvement du bateau, l'eau, le vent, la neige, le sang des poissons, les odeurs, c'est assez compliqué de se remettre sur pied après ça. Et donc sur cette première sortie, sur 8 heures de mer, je pense que j'ai fait une dizaine de photos pendant 5 minutes.
Ah quand même.
Ah oui, quand même.
Dites donc.
Bah, des photos floues. Et le reste du temps, j'étais couché et j'essayais de revenir à mes esprits, mais c'était assez intense.
Bon, maintenant vous avez le pied marin, vous êtes entraîné, vous avez pêché d'ailleurs, Nicolas Nérot, parce que vous ne vouliez pas être là à prendre et à ne rien donner. Vous étiez dans l'échange et donc vous êtes mis à la pêche aussi.
Voilà, moi pour moi là, au-delà de la photo, je pense qu'il y a, il y a de l'éthique et il y a aussi une relation humaine avec les gens. Et en tant que photographe, moi, je considère qu'on doit pas simplement prendre de l'image, mais qu'on doit aussi apporter aux gens et échanger vraiment avec eux, que ce soit un réel échange. Et donc, au niveau des pêcheurs, moi, je voulais vraiment les aider sur place et pouvoir leur apporter, donc forcément à ma mesure, puisque j'étais pas encore pêcheur et je le suis toujours pas d'ailleurs, mais pouvoir les aider. Et donc, la moitié du temps environ, je faisais des photos et l'autre moitié, je les aidais sur le bateau, sur des petites tâches qui étaient à ma portée. Mais c'était vraiment un échange et que moi je puisse aussi leur apporter quelque chose. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait des photos intéressantes aussi, c'est en rentrant dans l'univers des gens et en leur apportant quelque chose, pas simplement en prenant quelque chose, donc leur image.
3 mois donc sur cette île de Soria à plusieurs reprises, des choses à raconter, bien sûr des anecdotes, peut-être des tempêtes aussi sur le bateau. Nicolas Nérot, vous ne bougez pas, on vous retrouve d'ici une minute sur France Bleu Isère. France Bleu.
Passion Montagne sur France Bleu.
Jean-Michel Asselin.
Christophe Garnier.
Ce dimanche à 11h sur France Bleu, Jean-Michel, on reçoit le duo d'en haut.
Virginie et Pierrick, elle est accompagnatrice en montagne et prof de yoga et il est guide de haute montagne.
Et dans notre reportage, on va pas en faire un fromage, mais Alain Salomon nous dira tout sur la fabrication du bleu de Termignon. C'est à ne pas rater, c'est ce dimanche à 11h sur France Bleu.
Portrait d'Isère, nous sommes en compagnie de Nicolas Nérot, photographe, qui expose actuellement à la caserne de Beaune à Grenoble. Une expo sur l'île de Soria. Vous avez passé un mois à trois reprises. L'île est située à l'extrême nord de la Norvège, en bordure de l'océan Arctique. Elle ne comporte que 3 villages. Et vous avez passé donc un mois dans un petit village. Vous avez partagé le quotidien de la population. D'ailleurs, on vous avait prêté une petite maison qui est très jolie. J'ai vu sur une photo, vous étiez un petit peu perdu quand même, Nicolas.
Oui, voilà. Le premier séjour, j'ai eu la chance d'avoir ma propre petite cabane perdue au bout du village où j'étais tout seul avec mon poêle à bois. Donc c'était vraiment le rêve pour moi. Et puis les autres fois, en été, j'étais sous la tente juste à côté du port pour pouvoir partir le matin avec les pêcheurs à 2h du matin et être juste à côté du port. Et la dernière fois que j'y suis allé en février dernier, j'ai eu la chance de pouvoir rester pendant 3 semaines sur un bateau et de pouvoir dormir sur le bateau et vivre sur le bateau d'un pêcheur qui me laissait habiter son petit bateau dans le port de pêche. Donc les ambiances au réveil et au coucher, c'était vraiment magnifique.
Alors on a parlé de votre expérience de pêcheur débutant, enfin de on a vu que vous n'aviez pas bien le pied marin. Après donc vous avez passé le plus clair de votre temps sur les bateaux. Vous avez vécu quelques petites tempêtes, mer déchaînée?
Oui, on a vécu des mers assez déchaînées, sachant que les pêcheurs en fait travaillent tous les jours, puisque chaque jour,
sept jours sur sept,
puisqu'ils sont tous les matins, ils vont retirer leur filet ou leur longue ligne, et puis à la suite, en enchaînement, ils remettent des filets ou des longues lignes à l'eau. Et donc, le lendemain, ils sont obligés de repartir en mer chercher les filets qu'ils ont mis la veille. Et comme ça, ça continue de jour en jour et ils peuvent pas prendre une journée off. Et donc, par exemple, quand la météo est trop grosse, par exemple, avec beaucoup de vagues, ils sont obligés d'aller quand même en mer. D'une part, parce que on peut pas laisser le poisson dans les filets 2 jours de suite, puisqu'ils misent beaucoup sur la qualité, vu que c'est des pêcheurs avec des petites tailles de bateaux, ils misent davantage sur la qualité du poisson. Et puis d'autre part, parce qu'avec les courants et les vents, les filets risquent de partir, de dériver, et puis d'être perdus, sachant que c'est quand même des investissements qui sont assez lourds pour eux. Et donc il faut aller tous les jours en mer chercher le poisson, et que ça soit un gros temps ou une mer plate, c'est tous les jours lundi au dimanche.
Allez, alors un gros temps, alors racontez-nous un gros temps. Alors l'essentiel de la pêche, c'est la morue. Ouais. Et donc la morue, c'est pas trop loin des côtes, hein, mais les autres poissons, il faut aller au milieu de la mer.
Ouais, l'avantage de la morue, c'est qu'elle vient frayer en fait dans les fjords, donc juste à côté des petits villages. La morue, elle vient en mars pour la grosse saison. Elle descend de la mer de Barents, donc du côté russe, et elle migre jusque dans les fjords norvégiens du nord de la Norvège pour frayer. Et c'est là qu'on vient la pêcher. Après, en été, c'est d'autres types de poissons, le lieu noir par exemple, le flétan, qui eux sont pêchés un petit peu plus au large, et dans ce cas-là il y a parfois 2 ou 3 heures de bateau pour aller se rendre sur les lieux de pêche, tandis que la morue demi-heure on est sur place.
Donc. Vous l'avez vécu, les 3 heures de bateau?
Oui, on l'a vécu, 3 heures de bateau plus après parfois 1 heure pour réussir à retrouver les filets qu'on a mis la veille, parce que justement ils dérivent avec les courants, donc il faut les chercher à la jumelle, essayer de trouver un petit drapeau perdu dans la mer et dans l'océan Arctique, et parfois ça prend beaucoup de temps.
Bon, alors une tempête ou pas de tempête, Nicolas Nérot?
Oui, bon, j'ai l'impression que c'était la tempête tous les jours, mais c'est peut-être que j'étais pas encore assez formé au métier. Mais du gros temps et des conditions un petit peu difficiles pour faire des photos, c'est... On va dire que la partie photographique est une petite partie. La plus grosse partie, c'est réussir à déjà se placer sur des bateaux qui sont pas faits pour faire des photos, donc avec très peu de place pour quelqu'un. Tout est optimisé pour pouvoir pêcher. Et puis les conditions de mer qui sont difficiles. Donc après tout ça, une fois qu'on a réussi à contrôler à peu près tout ça, il faut se concentrer sur les photos et réussir à faire des photos intéressantes et des beaux cadrages. Et c'est là que ça commence à devenir difficile.
Alors, de cette première triple expérience, je dirais, sur l'île de Soroya, qu'est-ce que vous en retirez? Quel est votre meilleur souvenir ou ce que ça vous a apporté, Nicolas Nérot?
Alors, moi, ça m'a beaucoup apporté, au-delà de la photo, ça m'a beaucoup apporté humainement. Parce qu'au bout de 3 mois, avec 5 ou 6 bateaux différents, au final, on les connaît intimement et on passe énormément de temps avec eux. Donc moi, c'était d'abord une expérience humaine et personnelle, au-delà de la partie photographique. Et après aussi une découverte de ces milieux-là, et puis du photojournalisme, puisque je ne faisais pas simplement des photos, j'ai aussi fait beaucoup d'interviews pour m'intéresser à ces gens et pas simplement passer sur l'image et sur l'esthétique, mais vraiment connaître leur mode de vie. Donc cette partie humaine, moi c'est ce qui m'a beaucoup marqué, et c'est ce qui me manque quand je suis à Grenoble, et j'aimerais bien y retourner 2 fois par an, voire plus, pour passer un moment là-bas.
Voilà, ses amis sont très loin. À Grenoble, il n'a pas d'amis, Nicolas, mais il en a quand même un qui va lui poser une question. Ce sera juste après Boulevard Désert sur France Bleu Isère.
13h30, 14h, Michel Caron, France Bleu Isère.
C'est pas encore notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pu ne désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Tout de toi, je serai tranquille pour qu'on le soit. Si on ne s'était jamais vu, je mettrais tes fesses à ton insu. J'aurai le compliment facile, je serai l'homme fort et le docile. Ce dernier que je ne serai plus, mon amour, je nous ai perdus. Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Et quand tu danses, c'est du dripping, t'es un cadeau pour la rétine. T'es sur une toile de Mondrian que je saccage de 1000 couleurs. Jeté sans vergogne et sans plan, juste comme ça pour le bonheur. Je vous imagine même en camping à Bruxelles. Il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore. Il y a ceux et il y a celles qui restent plantés à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles.
Bruxelles, boulevard des Arts, qui sera en concert le 21 juillet à Saint-Pierre de Chartreuse dans le cadre des Rencontres Brel.
Les portraits de l'Isère, Michel Caron.
Et donc notre invité Nicolas Nérot, photographe, on peut voir vos photos caserne de Bonne jusqu'au 26 juillet, vos photos sur l'île de Soreya, c'est dans le cadre du festival Rue du Voyage, des photos qui donnent lieu d'ailleurs à un livre pour lequel vous lancez un appel à un financement participatif et vous avez choisi pour vous poser une question Gilles Cantinelli de l'association Grenoble Bouge qui est à l'origine de ce festival. Bonjour Gilles.
Bonjour Michel, bonjour Nicolas.
Alors, une question à poser à Nicolas, allez-y, il vous écoute, Gilles.
Eh bien, salut Nicolas, je voulais savoir, donc on a eu l'occasion de se rencontrer en fait à travers un de nos cafés voyages, et je voulais savoir un petit peu, ben maintenant tu en as vu plusieurs, tu as eu l'occasion d'en voir plusieurs.
Café voyage,
bien sûr. Et quelle a été ta plus belle rencontre à travers ces cafés voyages?
Ma plus belle rencontre.
C'est toi.
Est-ce que je pourrais dire toi, Gilles? Non, c'est.
Non, j'en attendais pas.
Je pense qu'il y a énormément de rencontres avec des gens qui sont allés. C'est l'intérêt des cafés voyages.
Oui, on rappelle très brièvement. Hein, ce sont des cafés mobiles nomades qui sont organisés tous les mois autour du voyage. Et les gens se rencontrent, ils donnent leurs bons plans, ils racontent leur voyage, ils montent leurs photos.
Voilà, le but c'est de se rencontrer, de parler voyage, de parler de toutes les destinations dans lesquelles les gens sont allés ou alors où ils veulent aller, et de pouvoir construire des projets à plusieurs aussi pour trouver par exemple des camarades de voyage. Et moi ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et Gilles, justement, j'en venais à toi.
C'est pour moi une
des rencontres qui est vraiment intéressante pour moi puisqu'on peut échanger sur nos différents projets. Moi j'avais une idée par rapport à un voyage en Géorgie. J'ai discuté avec toi et on arrive en échangeant avec les gens à ouvrir des perspectives de projets. Et donc voilà, pour moi c'est vraiment des moments intimes qui permettent de parler voyage.
Donc ça veut dire que vous avez trouvé quelqu'un ou un projet voyage?
Exactement.
Et c'est quoi?
Et donc c'est un prochain projet en Géorgie, de photographie dans un petit village géorgien pour changer des petits villages norvégiens.
Voilà Gilles, vous avez compris, puisque vous êtes un spécialiste de la Géorgie, c'est là où vous avez rencontré votre chère tendre et douce. Donc on a bien compris, Nicolas Nérot, la prochaine fois c'est la Géorgie, vous viendrez nous en parler. En attendant, on peut vous voir caserne de Bonne, vos photos sur l'île de Soreya. Merci infiniment Gilles.
Ben merci à vous.
Et puis à une prochaine fois, hein, on parlera voyage. Et puis cet appel pour le livre, hein, pour lequel
voilà,
vous lancez.
Voilà, financement participatif sur Ulule.
Voilà, on mettra votre lien sur notre site francebleu.fr. Merci beaucoup Nicolas.
Merci à vous Michel.
Au revoir.